France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse à l'isolement et à la solitude qui peuvent tuer à petit feu. Car comme le rappelle l'un de nos invités, le psychiatre David Gourion, la solitude augmente de près d'un tiers le risque de mortalité prématurée. Dans notre pays, selon une étude de la Fondation de France et du Crédoc, 17 millions de personnes âgées de 15 ans et plus souffrent d'un sentiment de solitude. Alors comment expliquer ce sentiment alors que nous n'avons jamais été aussi connectés, absorbés par nos réseaux sociaux? Plus nous scrollons sur nos écrans, plus nous nous sentons seuls. Nous verrons si la solitude, c'est la même chose que l'isolement, pourquoi certains ne parviennent pas à créer des liens durables, comment retisser des liens, car vous le verrez ce matin, l'isolement et la solitude ne sont pas des fatalités. Nos invités attendent vos questions et vos témoignages au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Racontez-nous vos initiatives pour retisser du lien. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour docteur David Gourion.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin psychiatre, docteur en neurosciences et vous publiez chez Marabout Remède à la solitude, 10 séances pour réapprendre, apprendre à tisser des liens avec des solutions que j'ai rarement vues ailleurs.
Oui, c'est un sujet, je pensais, important d'aborder parce que moi j'ai été très choqué justement, vous disiez 30% de surmortalité précoce. On est entre à peu près l'obésité et le tabac, ce qui est quand même assez choquant je trouve comme chiffre. Et puis d'autre part, on est dans une société de plus en plus complexe, vous avez évoqué les réseaux sociaux et je me disais que ce serait vraiment très utile de partager des outils qui peuvent fonctionner pour aider les personnes qui ont du mal à sortir de leur solitude, de leur isolement de façon assez pratique.
Des outils très concrets. On va le voir tout au long de cette émission. Bonjour Axel Davezac.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de la Fondation de France. Rappelez-nous ce qu'est la Fondation de France.
La Fondation de France a été créée il y a un peu plus de 50 ans pour accompagner toutes celles, tous ceux qui veulent s'engager dans des projets d'intérêt général.
Et vous avez donc récemment publié votre étude de Solitude 2025, les liens de proximité pivots de la sociabilité. Alors, pour commencer, tout de même, une précision sémantique. Quelle est la différence entre la solitude et l'isolement? Parce qu'on peut très bien être isolé sans ressentir de solitude et ressentir de la solitude en étant entouré.
Absolument. Ce sont deux notions très différentes. La première, donc, c'est-à-dire quand on mesure la solitude, c'est une mesure objective qui est liée au nombre de réseaux de sociabilité dans lequel vous êtes. Mmh. C'est-à-dire pour vous, c'est-à-dire la famille, alors hors de votre foyer, les amis, les voisins, les relations que vous pouvez nouer dans votre cadre professionnel si vous travaillez, et enfin, tous les engagements associatifs, politiques, syndicaux, de clubs. Et ça, ces cinq réseaux, en fait, on va mesurer si vous voyez...
Là, vous parlez de l'isolement, plutôt.
Non, de l'isolement relationnel objectif, voilà. Absolument. Et donc ça, on va venir mesurer si vous avez 1, 2, 3, 4 réseaux, 5.
Avec je rappelle, lesquels... famille, amitié, relations professionnelles, voisins, relations de voisinage.
Voilà, et les clubs associatifs, sportifs, et ainsi de suite. Et donc on va venir mesurer si vous interagissez avec 1 ou 5 de ces réseaux-là.
Ça, c'est l'isolement, et la solitude correspond à un ressenti, à un manque, à une insatisfaction dans les relations sociales.
En fait, c'est une perception très personnelle. C'est-à-dire que là, on vient demander aux personnes interrogées, est-ce que vous vous sentez seul, un peu, parfois, jamais, très souvent. Et donc, on a effectivement des mesures objectives et des perceptions individuelles qui sont souvent très différentes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que pour venir agir ensuite et trouver des réponses, il faut savoir s'il s'agit effectivement d'un problème objectif de nouer des relations ou alors d'une perception individuelle qui renvoie plutôt en fait à la qualité de la relation qui peut être nouée par les uns et les autres.
Et la solitude ne coïncide pas nécessairement avec l'isolement. Je le répète, une personne isolée peut ne pas se sentir seule, tandis qu'une personne entourée peut éprouver de la solitude. Et on a aussi le cas, on est isolé et seul.
Oui, et alors ce qui nous a surpris les premières années où on faisait l'enquête, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient isolées, mais qui ne souffraient pas de cette solitude. C'est ça qui est assez surprenant. Et à l'inverse, des personnes qui ne l'étaient pas, mais qui ne trouvaient pas dans les relations qu'elles nouaient et, les réponses à leurs attentes en termes de liens sociaux, et donc qui au fond étaient très malheureuses. Donc c'est bien la qualité de la relation aussi qui est nouée, qui est importante.
Alors David Gourion, vous le disiez, l'isolement et la solitude ont un impact social, physique, psychologique. La solitude augmente de 30% le risque de mortalité prématurée. La solitude tue à petit feu, mais pourquoi ?
C'est une question complexe. D'abord, il y a des effets individuels qui sont liés au stress, un excès de stress, et être seul, ça peut être une situation stressante. Nous sommes des êtres de lien, des mammifères sociaux, on a besoin des autres, on a besoin de connexion humaine.
C'est un stress chronique qui peut entraîner une inflammation à bas grade qui a une répercussion sur l'ensemble de l'organisme
exactement,
et du psychisme.
Exactement, vous l'avez mieux dit que ce que j'aurais pu faire, bravo. Il y a cet aspect-là des choses, il y a les troubles anxio-dépressifs que cela peut entraîner. Puis d'autre part, quand on est entouré, peut-être qu'on prend aussi mieux soin de sa santé. Parfois, c'est parce qu'un proche nous dit « tu devrais aller consulter, aller voir le médecin », donc probablement aussi moins d'accès aux soins. Et puis, il y a quand même aussi une dimension, et peut-être vous parlerez des chiffres, qui vont en augmentant. C'est ça aussi qui est inquiétant, c'est ce sentiment d'une société qui n'arrive plus à maintenir cette cohésion sociale. C'est aussi quand même, il faut en parler, pas que des effets individuels, hein. Je ne voudrais pas donner le sentiment, ce serait un peu culpabilisant de « il n'y a qu'à faut que », mais aussi des effets collectifs. On connaît aussi l'impact de la précarité. Et donc, il y a aussi un sujet politique et sociologique.
Axel Davezac, tous les âges, tous les genres sont concernés par l'isolement et la solitude ?
Oui, malheureusement, les premières années où on faisait l'enquête, on pensait, entre guillemets, on avait cette espèce d'image que uniquement les personnes âgées étaient seules. Et malheureusement, on s'est aperçu en travaillant de manière plus spécifique sur la jeunesse, qu'en fait, le taux de jeunes isolés et qui avaient aussi ce sentiment de solitude était extrêmement nombreux et malheureusement pas moins nombreux que dans d'autres catégories de la population.
Alors Axel Davezac, dans les communes rurales, c'est le sentiment d'isolement qui domine, tandis que dans les zones urbaines, c'est le sentiment de solitude qui prédomine.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. C'est la raison pour laquelle nous avons anglé cette année l'étude là-dessus. C'est pour essayer d'identifier en fonction des zones d'habitat, puisqu'on noue des relations là où on est quand même, physiquement en premier lieu, s'il y avait des différences, dans l'objectif d'essayer de réfléchir à des réponses et des solutions adaptées en fonction des contextes. Et alors, ce qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, dans les zones rurales, on a une dérive extrêmement négative de l'isolement relationnel objectivé, puisqu'on passe de 11 à 14%, c'est-à-dire de personnes dans les zones rurales qui n'ont aucun réseau de sociabilité, alors qu'à l'inverse, dans les grandes villes, les grandes agglomérations, notamment de plus de 100 000 habitants, alors que, pour le coup, on est rarement tout seul, dans la rue ou dès qu'on se promène, le sentiment de solitude est de 28%.
28% c'est-à-dire qu'en fait, dans les villes de plus de 100 000 habitants.
Tout à fait. Donc ce ne sont pas des vraies relations. On se côtoie au fond, mais on ne noue pas de relations.
Oui, et d'ailleurs, une autre donnée qui appuie ce que Axel vient de dire, c'est le fait que les taux de célibat sont les plus élevés dans les grandes capitales. Paris, New York, Londres, c'est très paradoxal. On est très entouré. Probablement aussi, les niveaux d'exigence augmentent. Une forme d'idéalisation. On est une société aussi de la performance qui peut-être rend aussi et vis-à-vis de soi-même et qui rend aussi peut-être les relations sociales compliquées de ce fait-là.
Axel Davezac, un chiffre éloquent, on retrouve trois fois plus de personnes seules chez les plus précaires. L'isolement frappe les plus vulnérables en premier lieu.
Alors, les plus vulnérables, dans les personnes au chômage, vous avez 20% de personnes qui sont au chômage qui sont isolées, c'est-à-dire elles n'ont plus elles n'ont plus aucun réseau de sociabilité, et c'est vraiment la double peine. Et c'est la même chose chez les personnes malades, notamment atteintes d'affections de longue durée, qui petit à petit s'isolent. J'allais dire avec une sorte de prisme, on sait qu'on a tous ces mécanismes parfois individuels de peur de la maladie, de peur de ne pas savoir gérer, et du coup les gens se reculent, les personnes malades le perçoivent et donc elles aussi se replient. Et c'est la même chose pour les personnes malheureusement qui sont au chômage, où il y a cette espèce de retrait d'écart qui se fait au fil du temps.
Et puis vous l'avez dit aussi, ce qui est inquiétant, c'est l'évolution chez les jeunes. Hein, on voit une augmentation, je crois près de 45-43% des jeunes. Moi je vois en consultation parfois des étudiants, des étudiantes qui me disent en fait, en dehors de la consultation avec vous, je n'ai parlé à personne depuis des mois. parce que certains cours sont en visio, les profs sont pas accessibles, j'ai du mal. Voilà, les gens peuvent aussi avoir des difficultés, une forme de timidité où on ne leur a pas appris. Ça s'apprend aussi, hein, la capacité à faire lien. Et donc cet isolement et ce sentiment de solitude croissant chez les jeunes est un élément d'inquiétude aussi.
Il y a un facteur aussi qui joue chez les jeunes, c'est effectivement la grande ville, on va souvent dans la ville, l'université, il n'y a pas facilement de réseau. Le deuxième point majeur dans la jeunesse, c'est le pouvoir d'achat. Depuis 2020, depuis le Covid, les difficultés financières des étudiants sont devenues absolument catastrophiques. Il y a, je crois, plus d'un étudiant sur trois qui ne mange pas trois repas par jour. Et donc, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas les moyens de sortir, de faire quoi que ce soit, on se replie parce qu'aussi on a honte. Il y a le sentiment de honte qui est présent aussi.
J'aimerais qu'on aborde quand même la solitude choisie. Ça reste un phénomène assez marginal quand même, David Gourion, Axel Davezac.
En fait, tout dépend de... Le mot important dans ce que vous avez dit, c'est choisi. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des besoins de solitude pour pouvoir penser, se reconnecter, se ressourcer, pour pouvoir créer. D'ailleurs, vous regardez chez les grands philosophes ou dans les grandes religions, il y a toujours à un moment donné l'expérience de la solitude, comme un moment très fort avec un avant-après. Siddhartha, Jésus, Moïse ont eu des expériences de solitude, d'isolement dans le désert, etc. Donc, on peut avoir ces besoins. Et d'ailleurs, Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Parfois, la promiscuité, ça peut aussi être l'enfer. Néanmoins, le mot choisi dit ce qu'il veut dire. C'est je peux décider quand je reviens et quand je reconnecte avec les autres. Alors que dans ce que vous décrivez de situation de grand isolement, que ce soit chez des jeunes, des personnes âgées, etc., il n'y a rien de choisi. C'est une solitude subie. Et quand on subit, en général, c'est plus compliqué.
Au fond, pourquoi la solitude fait-elle souffrir? Pourquoi la solitude est-elle le plus souvent vécue de façon honteuse? Aller dîner seul au restaurant, se rendre au cinéma seul, ce ne sont pas des expériences très valorisées dans nos sociétés. Pourquoi est-ce que ça fait souffrir avec ce sentiment de honte et de baisse de l'estime de soi, David Gourion?
Il y a tout un tas de raisons, et aussi des raisons... Les chercheurs qui font la psychologie évolutionniste nous disent que finalement le groupe était très protecteur. Nous vivions dans des environnements hostiles il y a encore quelques milliers d'années. Être exclu du groupe, aujourd'hui on te dit tu quittes le loft à ton travail, etc., c'est déjà très douloureux, mais à l'époque, être exclu de la tribu, c'était probablement synonyme de mort à très courte échéance, et jusqu'au Moyen-Âge, le bannissement de la cité était, on peut se dire c'est pas très grave, être banni d'une ville, mais non, en fait, quand on était banni de la cité, la durée de survie était très courte parce que le monde était extrêmement hostile et extrêmement dangereux. Il en reste probablement une trace, le sentiment d'isolement, de solitude est un sentiment de danger, et ce que les neurosciences confirment, c'est-à-dire que quand vous utilisez des paradigmes comme le cyberball, des petits jeux,
c'est
en fait, alors on vous met dans une IRM et puis on vous dit, il y a un petit jeu d'ordinateur, vous allez vous passer la balle avec deux personnes, une à votre droite, à votre gauche, qui sont aussi dans des IRM. Et puis vous commencez à jouer et à vous passer la balle, et au bout d'un moment, ça devient un peu pénible parce que les deux autres jouent sans vous. Et ce qu'on enregistre au niveau cérébral quand on est dans cette situation, qui est pourtant un peu bébé, de petites balles qu'on s'échange, c'est que ça active les mêmes neurones que les neurones de la douleur physique. C'est-à-dire que le sentiment d'exclusion sociale fait mal. Se sentir rejeté, ça peut faire plus mal qu'un coup de poing, en fait.
Avec un impact sur l'estime de soi.
Exactement. Surtout quand cette situation se répète. Et puis ensuite, il y a un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand on a répété l'expérience du sentiment d'exclusion, on finit par se dire c'est un peu de ma faute, c'est parce que je suis comme ça. On crée des fausses croyances et puis prophétie autoréalisatrice qui finit par s'auto-valider.
Sur l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très utilisé, en tout cas dans les associations justement qui accompagnent les personnes isolées. Et pour le fait, il faut remettre les gens en mouvement. Et notamment, on fait une chose, nous, à la Fondation de France, chaque année, on organise des réveillons en fin d'année parce que c'est dans ces périodes-là que, pour les personnes isolées, c'est le plus douloureux, puisqu'on est tous avec nos familles, nos amis, en train de fêter la fin de l'année. Et ces personnes-là, c'est vraiment particulier. Et du coup, toutes les associations avec lesquelles nous travaillons, on demande une chose, c'est-à-dire qu'elles n'organisent pas des soirées, des événements, des spectacles pour les personnes isolées, mais avec. Et ce qu'on a observé, c'est que le fait de demander aux personnes isolées de faire la cuisine, d'organiser, de faire la décoration, et elles-mêmes de servir les gens, d'accompagner, où tout le monde est mélangé, en fait, on redonne de l'estime de soi parce qu'on vaut quelque chose dans le regard de l'autre. Et c'est ça qui est extrêmement important.
Et nous accueillons Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Vous appelez d'Auvergne.
Oui, oui.
Alors, quelle est votre expérience de la solitude ou de l'isolement ?
Eh bien, en milieu rural, il y a l'isolement, elle est au niveau culturel, parce qu'on ne retrouve pas les mêmes choses qui existent à la ville. Et nous, avec des associations, on a créé une troupe de théâtre et on va donner des pièces dans les petits villages où personne ne va. Et là, il y a 100 personnes qui viennent et après, on fait un repas ensemble et on tisse des liens. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Parce que tisser des liens en milieu rural, eh ben, ça empêche l'isolement. Et puis, il y a des amitiés qui se créent et ça, c'est super.
Vous nous avez dit au Standard que tisser des liens en milieu rural, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, Monique ?
Ben, au début, c'est arriver à avoir une légitimité, se faire connaître, se faire accepter. Faut pas arriver à... Moi, je viens d'Avignon, faut pas arriver en conquistador. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont et humblement rentrer dans leur vie et partager des choses ensemble.
Vous avez ressenti, vous, l'isolement quand vous êtes arrivé en Auvergne ?
Non. Moi pas du tout, parce que je suis hyperactive et que
ça se sent.
Je discute avec tout le monde.
On sent bien votre hyperactivité très positive, Monique. Restez avec nous, on accueille Maïté. Bonjour Maïté.
Bonjour.
D'où appelez-vous Maïté ?
J'appelle des Sables d'Olonne, en Vendée.
Très très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la retraite il y a une vingtaine d'années ?
Il y a une vingtaine d'années, voilà. Je ne savais que faire de ma retraite, alors que j'avais plein d'énergie. J'ai donc réservé une salle municipale et j'ai passé une petite annonce dans un journal local en disant, vous avez entre 40 et 10 ans, vous vivez seul, vous avez envie de continuer à partager des activités de tout ordre, etc. Je vous donne rendez-vous tel jour à telle heure. Et je suis arrivée à cette réunion, ne sachant pas du tout ce qui allait se passer, et j'avais 30 personnes devant moi. Et ce soir-là, l'association a été créée, et ce fut un bonheur innommable.
Ça continue ? Voilà.
Elle continue toujours. J'en ai quitté la présidence il y a quelque temps, parce qu'il faut savoir passer le relais. Bon, apparemment, elle le change un petit peu, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en fait, même au sein d'un couple, il peut y avoir une forme de solitude de l'un ou l'autre conjoint. Et nous avons accueilli ces gens, bien que mariés, qui avaient besoin de retrouver des activités qu'ils n'avaient plus dans le cadre de leur couple.
Comment s'appelle votre association, Maïté ?
Solisol, le soleil du solitaire.
Solisol, et c'est du côté des Sables d'Olonne.
Absolument.
Bon, oui. Vous pouvez peut-être faire des choses avec l'Auvergne, avec l'association de Monique.
Allez savoir, pourquoi pas.
Pourquoi pas, Monique, vous êtes restée avec nous. Vous pouvez peut-être organiser des choses entre l'Auvergne et les Sables d'Olonne. Hein ?
Ah ben, pourquoi pas. Pourquoi pas réaliser. En plus, c'est une région que j'adore. Même si je ne fais plus partie de Solisol, mais elle existe toujours. Et je pense que les filles seraient très contentes de faire ça.
Axel Davezac, deux belles initiatives.
Deux belles initiatives. Et en fait, c'est ce que nous observons, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien l'initiative associative qui recrée du lien social, notamment dans les zones rurales. Ce que dit Monique, en fait, avec son théâtre itinérant, c'est qu'elle va vers les gens. Et la question de la mobilité dans les zones rurales est un enjeu majeur. Et donc, il faut aussi soutenir toutes ces initiatives-là qui vont vers les gens pour arriver à proposer et recréer ce lien.
Monique, le nom de votre association ?
C'est l'association d'âge en âge. Et c'est que des bénévoles. On est 200 personnes.
Ah,
et il y a de tout, de la couture, de la gym, de la danse, de tout.
C'est dans quelle ville exactement ?
C'est à La Mongie, un petit village au-dessus d'Issoire.
Eh bien, c'est génial. Merci beaucoup, Monique et Maïté, de nous avoir appelés. Dans quelques instants, des pistes pour retisser des liens quand on se sent seul ou isolé. On se retrouve juste après avoir écouté Hervé, Cœur, Poids, Plume. C'est une chanson de 2019. Il est déjà 10h25 sur Inter.
Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souvienne, je me souviens plus. Aussi loin que je me souvienne, je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes bas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souvienne, je me soutiens plus. Ah ouais, ces maudites paroles. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture.
sur les étures, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, 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 ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à l'pou qui va plus, j'ai le cœur quoi plume. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur quoi plume, le cœur quoi plume, le cœur quoi plume, le cœur.
Hervé interprété Cœur Poids Plume.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment retisser des liens quand on souffre de solitude ou d'isolement avec le psychiatre David Gourion qui publie Remède à la solitude et avec Axel Davezac, la directrice générale de la Fondation de France qui publie une très belle étude, l'étude Solitude 2025, les liens de proximité, pivot de la sociabilité. Et nous accueillons Clémence. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Merci de prendre mon appel.
Et d'où appelez-vous ?
Alors, j'appelle du Loir-et-Cher, de la ville de Blois.
Alors, que faites-vous du côté de Blois pour lutter contre l'isolement et la solitude ?
Eh bien, je suis accueillante en lieu d'accueil enfants-parents et j'appelais justement pour faire connaître aux futurs parents et aux jeunes parents ces dispositifs qui permettent de lutter en fait contre l'isolement des familles parce que quand on bascule dans la parentalité, bien souvent, la solitude, c'est un vrai sujet. On peut rappeler que les suicides des jeunes mères la première année de vie des nourrissons sont à des chiffres affolants. Du coup, c'est des dispositifs qui ont été créés par Françoise Dolto initialement dans les années 70, si je me trompe pas, avec la Maison Verte et la Maison Ouverte. À présent, c'est un rayonnement national, c'est porté par les CAF.
Et en quoi ça consiste exactement, Clémence ?
Et alors, c'est tout simplement des lieux aménagés, on va dire un peu comme des crèches, dans lesquelles des parents peuvent venir de manière anonyme, gratuite et libre à l'heure qu'ils veulent et le temps qu'ils veulent, et ils restent avec leur enfant. Donc ça leur permet d'avoir un espace de socialisation sans séparation, de pas être obligé de confier leur enfant à mode de garde pour qu'il voit d'autres enfants, et aux parents de pas être obligés, on va dire, d'aller travailler pour parler à d'autres personnes.
Comment on fait pour retrouver ces lieux d'accueil parents-enfants? Est-ce qu'il y a une organisation, un site? Comment ça se passe?
La majorité sont portées par les CAF qui les financent en grande partie. D'accord. Et du coup, sur les sites internet départementaux des CAF, en général, il y a la liste, d'accord, les adresses et les horaires, parce que les moyens de communication pour se faire connaître sont pas tous les mêmes. Certains sont portés par des collectivités territoriales, d'autres par des associations, donc il n'y a pas trop d'harmonisation là-dessus, à part la CAF qui est une bonne référence pour trouver des informations.
La Caisse d'allocation familiale. Merci beaucoup Clémence de nous faire connaître ce dispositif. Alors, Axel d'Avezac. Votre étude Solitude 2025 permet de s'intéresser aux divers réseaux de sociabilité et d'interroger la question des liens forts et des liens faibles qui structurent l'ensemble des relations sociales. Expliquez-nous cette différence entre liens faibles et liens forts.
En fait, elle vise à mesurer la qualité de la relation qui est nouée vis-à-vis d'un réseau. Par exemple, si je prends le voisinage, en fait, vous pouvez croiser votre voisin et juste lui dire tous les matins bonjour et le soir bonsoir, mais vous ne développez aucune interaction. Donc, c'est un lien faible. C'est-à-dire que malgré tout, vous allez dire a-t-on pensé à vider les poubelles, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage et d'interaction forte, alors qu'un lien fort sera le jour où on fait le dîner entre voisins, on crée une véritable relation. Et c'est important parce que
c'est-à-dire que des liens faibles, a priori comme ceux, les liens du voisinage, peuvent se transformer en véritables liens forts, voire d'amitié.
Alors, ils peuvent. Alors, ça, c'est quand ça part dans le bon sens, j'allais dire, du côté positif, où on va cultiver à partir de ce lien faible quelque chose de très ténu pour le faire devenir un lien fort et quelque chose de bien. Mais à l'inverse, si vous voulez, aujourd'hui, il y a 11% aujourd'hui de personnes en France qui sont en situation d'isolement relationnel. Et il y en a un peu plus de 20 qui n'ont plus qu'un seul réseau de relations. C'est-à-dire que ces personnes-là, si ce sont des liens qui s'effritent et qui sont très faibles, ils vont tomber. Donc, mis bout à bout, ça fait presque 30% de la population qui est quasiment en situation d'isolement. Donc, il est très important aussi de savoir cultiver et de trouver les solutions pour mettre de la qualité dans ce lieu.
Vous disiez hors antenne, docteur David Gourion, que concernant notamment ces liens de voisinage, qu'il fallait oser.
Oui, il y avait quelque chose de commun entre les trois témoignages, les trois beaux témoignages que nous avons eu la chance d'avoir, qui est d'avoir osé lancer une initiative. Et pour pouvoir oser, il faut croire en soi et se dire qu'on peut intéresser les autres. L'expérience de la solitude amène parfois les gens à avoir le sentiment qu'ils sont un peu invisibles. Depuis l'enfance, on a tous besoin d'être vus, d'exister aux yeux des autres. Et ce sentiment-là finit par se transformer en sorte de croyance, je n'ai pas beaucoup d'intérêt, donc pourquoi moi, plutôt qu'un autre, irais-je porter une initiative ? En fait, il faut oser, parce que quand on le fait, on se fait du bien, mais on fait aussi du bien aux autres. Et ces initiatives-là, alors moi j'essaye un petit peu dans mon livre justement, et je crois qu'il faut le faire avec humilité, parce qu'il n'y a pas d'y a qu'un faut que, il faut prendre les gens par la main, parce que leur dire c'est simple, c'est facile, vas-y tente, ose, ça marche pas, et ça les renvoie à un sentiment un petit peu de leur propre difficulté, mais au contraire les prendre par la main, et avec des petits outils simples, progressivement essayer de recréer d'abord des micro-liens et à nouveau oser l'autre.
Et nous accueillons Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Bienvenue. D'où appelez-vous Hélène ?
De Paris.
Vous nous avez expliqué au Standard que vous étiez très très sociable avant le Covid.
Oui.
Que s'est-il passé après ? Après cette crise sanitaire qui nous a tous touchés à divers degrés ?
Je crois que le confinement m'a confiné dans ma tête. Et que c'est devenu pour moi maintenant très très difficile. Mais vraiment, je sortais beaucoup. Il était pour moi hors de question un week-end de pas voir du monde, d'avoir des amis, et que depuis maintenant c'est devenu un enfer. Maintenant je dois tout prendre sur moi, je dois me préparer mentalement pour la moindre sortie, pour le moindre contact, et c'est devenu très très compliqué.
Et est-ce que vous savez pourquoi c'est devenu compliqué, puisque vous étiez plutôt sociable avant cet événement qui nous a tous touchés? Est-ce que vous comprenez, vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé?
Je crois que le fait d'avoir été confiné, d'être resté chez moi, et chose que je ne faisais jamais avant, m'a peut-être fait apprécier d'être cette solitude et de rester seul chez moi.
Certains parlent du syndrome de la cabane, c'est-à-dire que à un moment donné, on se sent protégé dans son refuge et qu'on a un peu plus de mal peut-être ensuite à affronter le monde extérieur. C'est un peu votre cas, Hélène.
Alors je me dis que je ne suis pas renfermée chez moi, je me dis que c'est les gens de dehors qui sont renfermés dehors.
David Gourion.
Oui, ce qui est
j'imagine que dans votre patientèle, vous avez eu des patientes, des patients comme Hélène.
Oui, absolument. Et avec des trajectoires très hétérogènes. Il y a des gens à qui ça a fait du bien, d'autres à qui ça fait beaucoup de mal, en particulier chez les jeunes. Ce qui est important et intéressant de dire aussi, c'est qu'au fond, on a découvert, grâce aux neurosciences, nous avons des neurones de la sociabilisation. Les chercheurs parlent de cognition sociale et que ça s'entraîne. C'est comme l'apprentissage d'une langue qu'on ne pratiquerait plus ou d'un sport qu'on arrêterait pendant un certain nombre de temps. Eh bien, cet apprentissage, on peut le perdre. Et par contre, on peut aussi, et c'est la bonne nouvelle, hein, il n'y a pas de fatalité, on peut aussi réentraîner. Mais il faut le pratiquer. C'est comme tout, il faut avoir une forme de ligne directrice qui nous amène. Et ce qui est compliqué, c'est justement, comme Axel décrivait très bien, quand les réseaux sociaux se délitent autour de soi, comment fait-on pour essayer de raccrocher ? C'est en ça que la problématique n'est pas que individuelle, mais elle est aussi très collective.
Hélène, est-ce que vous avez le souhait là, de rompre cette solitude, cet isolement ?
C'est-à-dire que j'ai pas le choix, je suis bien obligée parce que je suis quand même sollicitée par des amis et qui comprennent pas aussi ce changement, qui me disent mais elle est où la Hélène d'avant quoi. Et donc je lutte, mais c'est très compliqué, c'est vraiment très 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 compliqué.
Axel Davezac.
Je crois qu'il y a un point qui a été évoqué à l'instant, qui est de dire que il y a la question du temps. Et du temps long, c'est-à-dire que c'est un chemin progressif et c'est tout le travail aussi qui est fait par les associations, c'est que on va avancer petit à petit avec la personne qui est en difficulté parce que c'est des mécanismes qui nécessitent de reprendre confiance, d'être à l'aise et il faut vraiment arriver à laisser ce temps long.
Docteur David Gourion, peut-être un premier conseil à Hélène pour justement qu'elle renoue avec ses amis, parce qu'elle a encore des amis, elle nous le dit.
Peut-être Hélène, j'aurais envie de vous dire, vous conseiller, si je peux oser, d'oser dire oui. Parfois, on a tous cette expérience de quand on nous propose quelque chose, est-ce que vraiment, est-ce que, etc. Je dis toujours, c'est comme aller à la piscine. Hein. On n'a pas forcément envie d'y aller, mais on est souvent assez content quand on revient. Donc, il faut essayer d'oser dire oui.
Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Alors, docteur David Gourion, dans votre livre « Remède à la solitude », on suit une patiente fictive, Rachel, qui souffre de solitude. Vos séances thérapeutiques vont lui apprendre à tisser des liens. Lors de votre première séance, Rachel vous dit « Je ne suis pas seule parce que je suis isolée, je suis seule parce que je ne sais pas comment on fait pour exister aux yeux des autres ». Pourquoi est-ce si important d'exister aux yeux des autres, docteur Gourion ?
Parce que ce besoin, on l'a tous depuis l'enfance. D'ailleurs, si on passait le film de notre vie en accéléré, tout ce qu'on a vu à travers nos yeux, depuis l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, où en fait, quand tout le monde nous regarde quand on est un enfant. Même dans la rue, les gens se tournent et c'est beau, c'est mignon, un enfant, on a envie de le dire. Et puis petit à petit, à l'adolescence, on grandit, on a des boutons, c'est un peu moins le cas. Et on perd ce sentiment. Or, c'est une souffrance pour tous que d'être invisibilisé. Je trouve que c'est d'ailleurs peut-être encore plus une problématique féminine aujourd'hui. Je parle des belles invisibles qui existent tant avec ce sentiment de...
D'être transparent.
Au fond, je suis pas très intéressante, j'ai pas grand-chose à dire. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que dès qu'on fixe la caméra sur soi-même, c'est-à-dire dès qu'on se met à se juger soi-même, on perd beaucoup de la capacité à faire du lien. En fait, il faudrait essayer de remettre la caméra sur l'autre, de s'intéresser à l'autre, au visage de l'autre. Et puis, je donne un conseil très simple, qui est de se souvenir que notre visage, c'est quand même on ne va pas refaire Lévinas, mais c'est quand même...
Emmanuel Lévinas, le grand philosophe du visage.
Exactement, qui est quand même une interaction très forte. On le voit d'ailleurs avec les gens qui ont eu des problèmes au niveau du visage. Notre visage, c'est un peu comme une maison. Comme notre maison. Est-ce qu'il est accueillant ? Est-ce que... Apprenons à nos enfants aussi à faire du visage, du sourire, un vrai sourire. Pas un faux sourire, comme sur les photos, un petit peu, etc. Mais un sourire qui vient du cœur. C'est-à-dire que votre visage, et on peut s'entraîner avec les gens autour de nous, avec les voisins, avec les commerçants, parfois on va juste faire du bien avec ce visage. On va activer... Vous savez, on a des neurones miroirs quand on sourit à l'autre. Ça lui fait du bien d'une certaine façon, surtout si ce sourire est vrai. Et authentique. Et je crois beaucoup aussi à cette notion d'authenticité dans le lien. Ce qui nécessite, pour reprendre ce que disait Axel, du temps. Parce que les liens, ça prend du temps. Souvenez-vous la métaphore du petit prince et du renard. Le lien ne se crée pas tout de suite. Il faut savoir apprivoiser l'autre. C'est pas à pas. Il ne faut pas être déçu parce qu'on a été gentil puis que la personne ne l'a pas été tout de suite en retour. Parfois, ce lien, les gens peuvent être timides, peuvent avoir du mal. Parfois, ce lien va prendre du temps.
David Gourion, la solitude engendre chez Rachel des pensées négatives sur elle, sur les autres. Comment prendre de la distance avec ces pensées qui ne sont que des pensées, souvent en décalage avec la réalité? Bref, comment opérer ce que vous appelez dans votre livre, et là je m'adresse au docteur en neurosciences, une défusion cognitive? Expliquez-nous d'abord ce qu'est cette fusion cognitive, avant de parler de défusion cognitive.
On donne beaucoup trop d'importance à nos pensées. Les êtres humains, on a tendance à penser que parce qu'on croit quelque chose, c'est vrai. Il y a des gens qui sont sautés dans des bus en pensant qu'ils iront au paradis, avec la certitude que cette croyance est vraie. Or, la pensée, qu'est-ce que c'est? C'est juste des connexions neuronales. On a plein de pensées, même Einstein avait des tas de pensées qui n'étaient pas forcément toutes, à tout instant, profondes. Sauf que comme ce sont les nôtres, on leur attribue une valeur, une valence qui est extrêmement élevée, avec un haut niveau de croyance. Et donc, il faut apprendre à se dire, ce que je suis en train de me dire là, je ne suis pas intéressant pour les autres, ce n'est pas forcément une vérité, c'est juste une pensée. Juste se dire, en fait, je pense que je ne suis pas intéressant pour les autres, ce n'est pas tout à fait la même chose que se dire, je ne suis pas intéressant.
Et donc, comment on opère ?
J'ai la pensée que... Moi, je donne un petit peu la métaphore de ces pensées-là. Essayez, pour prendre un petit peu de distance, moi, j'aime beaucoup l'idée de l'humour. J'utilise beaucoup, d'ailleurs, le... On a tous, et moi le premier, parfois des pensées irrationnelles qui vont générer du stress ou de l'anxiété ou des sentiments désagréables. Peut-être que là, sur l'antenne, l'interview, c'est pas bien ce que je dis à Ali, ça plaît pas aux gens, etc. Je vais reprendre cette pensée, et comme j'ai vécu à Marseille et que j'aime particulièrement cette ville, je vais mettre l'accent marseillais. En disant, non mais David, ce que tu dis là, c'est absolument, ça n'a absolument aucun intérêt. Et le fait de faire ça me fait faire un tout petit pas de côté qui n'enlèvera pas la pensée. Nos croyances, elles vont probablement rester, mais qui fait que je la regarde plus comme, un arrière-fond de radio ou de télé qu'on écouterait, mais sans lui donner grande importance. C'est ça, défusionner, c'est se dire, ces pensées-là, c'est le bruit de fond de mon cerveau, c'est de la sueur de neurones, mais ça n'est pas une vérité, parole d'évangile, et donc je peux aussi prendre un peu de distance. C'est un peu ces outils-là que j'essaie de développer dans le livre.
Alors quand on se sent seul, isolé, on se sent souvent invisible, comment devenir moins transparent aux yeux des autres? Expliquez-nous un petit peu, vous parlez de synchronie sociale, comment arriver à cette synchronie sociale? C'est quand deux cerveaux se synchronisent littéralement, et vous nous proposez un exercice qui s'appelle le micro-miroir social. Expliquez-nous un petit peu cet exercice pour devenir moins transparent aux yeux des autres.
Oui, alors les recherches récentes, et d'ailleurs très récentes, sont assez fascinantes sur le sujet. On a pu noter par exemple que quand un parent lit une histoire à son enfant et qu'on enregistre les ondes cérébrales, elles se synchronisent. Que quand deux amoureux se regardent, ou même deux personnes se regardent suffisamment longtemps, elles vont synchroniser à un moment donné les ondes cérébrales de leur cerveau. Et justement parce qu'on a ces fameux neurones miroirs qui nous amènent à créer une vraie connexion avec l'autre. À partir du moment où ce regard et ce sourire est absolument authentique. Et donc, on peut faire des expériences sociales, des micro-liens, un sourire. Faites l'expérience, par exemple, aujourd'hui, si vous avez l'habitude de croiser des voisins ou des commerçants, de prendre le temps de les regarder, de prendre le temps de leur poser une petite question, puis faites un petit exercice. Moi, j'appelle ça le compliment suspendu. C'est dites-leur quelque chose de gentil sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour, c'est la clé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans
sans
un échange.
Sans arrière-pensée, sans intérêt, gratuitement.
Exactement, ouais. Exactement.
Axel Davezac.
Oui, juste sur la question de l'invisibilisation, juste un petit témoignage. Il y a quelques années, dans l'étude, nous avions choisi de nous intéresser particulièrement aux personnes les plus précaires. Et il y avait un témoignage qui m'avait bouleversé à l'époque, d'une femme SDF qui disait, au fond, ce qui est le plus difficile dans ma vie, ce n'est pas le froid, ce n'est pas la faim. En fait, c'est tous ces gens qui passent devant moi sur le trottoir et qui ne me regardent même pas. Et du coup, ce que vous dites là, pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait tous faire à titre individuel tous les jours, c'est quand on croise quelqu'un, comme vous le dites, lui sourire, lui dire bonjour, mais de manière authentique. Et en fait, ça change complètement la vie.
Et d'ailleurs, Axel, regardez l'expérience quand on prend le métro. Les gens ne se regardent plus.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, David Bourion. Je fais l'expérience tous les matins. On est tous plongés sur nos smartphones. Mmh. Nous sommes une civilisation de la nuque penchée. Je suis désolé. Mmh. Les occasions de sourire à l'autre dans le métro, dans le RER, dans le bus, etc., sont de plus en plus compliquées car nous sommes tous absorbés par nos écrans. Ça devient de plus en plus compliqué.
Et même quand les gens se tentent sociabilité, qui est la table, qui est le partager le pain, le compagnonnage. Même quand vous voyez des ados au McDo, etc., bien souvent, vous vous dites c'est sympa, ils vont en groupe, ils vont partager du temps, ils sont tous sur leur téléphone. Et cette histoire-là, d'ailleurs, elle est passionnante des réseaux sociaux, parce que quand c'est arrivé il y a une vingtaine d'années, on s'est dit c'est incroyable, c'est formidable, ça va aider justement les gens, les personnes qui ont du mal à créer du lien, ce qui est parfois le cas, hein, moi je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en réalité, tout à l'heure, vous parliez de liens faibles. Ce sont probablement les liens les plus faibles qui existent. D'abord, probablement pour des tas de raisons, mais il y en a deux principales. D'abord, le modèle qui sous-tend les algorithmes est un modèle économique. Hein, il est basé sur monétiser le temps d'attention. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et le deuxième sujet, c'est que le lien a besoin d'incarnation. Je disais tout à l'heure, nous sommes des petits mammifères sociaux. Le lien a besoin d'incarnation, et là, c'est totalement désincarné. Donc, je n'ai pas une position... je crois qu'il faut être nuancé sur la question des réseaux sociaux, parce qu'ils peuvent aussi être bénéfiques. Mais en même temps, ils n'ont absolument pas résolu la question de la solitude, de l'isolement, et en particulier de la déconnexion chez les jeunes.
Et nous accueillons Christine de Nancy. Bonjour Christine, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, quelle voix joyeuse. Alors, comment faites-vous, vous, pour aller vers les autres, pour rompre le sentiment de solitude, d'isolement? Comment faites-vous?
Moi, j'ai une facilité de parler, de langage, comme ça. Et quand je croise quelqu'un, soit à l'abri de bus, soit là, dernièrement, c'était au supermarché, et c'était un grand-père. Je voyais bien qu'il avait quelques difficultés. Je me suis approchée de lui, je lui ai parlé. Et voilà, j'engage comme ça. Et je trouve que c'est des petites fenêtres qui s'ouvrent pour moi, et j'espère pour lui aussi ou pour elle. Et je trouve que quand vous dites qu'on a tous la tête sur nos smartphones, faisons des efforts pour se côtoyer, et ceux qui ont plus de facilité d'aller vers l'autre, sans intrusion, mais simplement, je sais pas, des toutes petites choses de la vie qui font que il me rend un sourire, et c'est mon bonheur de la journée.
C'est vrai que parfois on n'ose pas parce que tout simplement on a peur de perdre la face. C'est le grand sociologue Erwin Goffman qui parle de ça dans les interactions sociales. On a tous peur de perdre la face. Vous dites bonjour à quelqu'un qui vous répond pas, vous souriez à quelqu'un qui ne vous sourit pas, et donc il faut un certain courage parfois pour aller vers les autres. Et Christine y arrive parce qu'elle a un talent, une intelligence émotionnelle visiblement qui lui permet d'aborder les gens en toute délicatesse, etc. Mais David Gourion, parfois on a peur de la rebuffade.
Oui, absolument. On a tous cette expérience du rejet, de l'humiliation sociale, du sentiment de honte. Ce qui est très intéressant dans ce témoignage, on parlait tout à l'heure de la cognition, de l'intelligence sociale, c'est qu'elle fait l'effort de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous allez croiser votre boulanger ou votre boulangère ou la caissière de supermarché, faites l'expérience mentale de comment je vivrais sa journée, 8 heures, 10 heures debout derrière le comptoir, ou comment et puis, essayez de vous dire qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise. Parfois, juste bon courage pour votre journée. Avec un petit sourire, je peux vous dire que vous pouvez faire tellement de bien aux gens. Faites ces petites expériences sociales. Vous risquez pas grand-chose. Vous risquez pas grand-chose, objectivement. Personne ne va se moquer de vous, personne, etc. Vous risquez simplement de faire du bien à quelqu'un.
Merci beaucoup, Christine, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Dans quelques instants, d'autres pistes pour retisser des liens avec les autres. Ce sera juste après avoir écouté Holly Cook qui interprète We Share Love, 10h49 sur Inter. Interpréter We Share Love.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Comment retisser des liens quand on souffre de solitude ou d'isolement ? C'est notre émission ce matin avec le psychiatre David Gourion qui publie Remède à la solitude, avec Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, qui publie l'étude Solitude 2025.
Priscilla. Non, je dois repasser d'abord à la maison. À plus tard.
Oh, bon, bah d'accord, j'ai compris. Tout le monde m'abandonne. Eh ben, au revoir. C'est toujours sur moi que ça tombe. C'est vraiment trop injuste.
Ça vous rappelle des souvenirs d'enfance, hein, David Gourion. Parce que pour lutter contre la solitude, bah, il faut, vous l'expliquez dans votre livre, mettre en veilleuse le Calimero qui sommeille en nous. Calimero, c'est ce personnage italien de poussin noir qui n'arrête pas de se plaindre. Et pour vous, il y a un mécanisme pervers de la solitude. Ce sont ces personnes qui se plaignent constamment, des personnes plaintives qui finissent par créer exactement ce qu'elles redoutaient, à savoir le rejet.
Oui. On l'a tous un peu en nous, hein, ce petit Calimero, à la fois très mignon et très plaintif, avec cette petite voix un peu triste qui nous fait la recension des expériences sociales douloureuses, de tout ce qu'on a pu rater, de ce qui n'a pas marché, de ce qui risque de ne pas marcher.
Alors, de reprocher à l'autre, ouais. Ah, mais tu ne m'appelles pas, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Mais bon, une fois, ça va. Mais alors, c'est vrai qu'après, on a envie de fuir ce genre de personnes.
C'est comme avec les enfants. Il faut être doux avec ce petit Calimero. Hein. Faut pas le réprimander, mais lui dire, écoute, merci, je t'adore, t'es tout mignon, mais t'as pas toujours raison. Et justement, je vais peut-être oser transgresser un petit peu ce que tu me dis en permanence.
Alors, que conseillez-vous pour lutter contre ce syndrome de Calimero qui peut faire fuir les gens ? Vous vous appuyez sur la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. Expliquez-nous pourquoi cette thérapie ACT permet de lutter contre ce syndrome de Calimero.
Cette thérapie, elle est intéressante parce qu'elle est très ancrée dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle propose des outils. Vous savez, il y a beaucoup de recherches dans le domaine des thérapies comportementales et cognitives. Et elle propose des outils extrêmement simples. Moi, je trouve qu'ils parlent vraiment aux gens et qui sont applicables de façon assez immédiate dans quelque chose qui est, d'une certaine façon, s'il fallait le résumer en une seule phrase, se reconnecter à soi-même, mais autour d'actions qui ont du sens. C'est pas la thérapie un peu neuneux qui va vous dire signe positif, c'est pas du développement personnel, c'est plutôt revenons à ce qui nous donne, ce qui redonne la dignité aux êtres que nous sommes, ce qui a du sens, revenons à nos valeurs profondes. Et quand on parle aux gens de leurs valeurs profondes, de qu'est-ce qui compte pour vous le plus dans votre existence ? Qui compte le plus dans votre existence ? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir renouer. Rien ne nous dit qu'il y aura un deuxième ticket pour une autre vie, hein, donc il faut essayer de la vivre bien celle-ci. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Là, je trouve qu'on a un levier intéressant.
Vous partagez, et vous l'écrivez, vous dites que c'est l'un des secrets les mieux gardés pour lutter contre la solitude. C'est quand on arrête de se focaliser sur sa propre solitude et qu'on s'intéresse sincèrement aux autres, la magie opère.
Oui, parce que on l'a dit à de multiples reprises, on a tous besoin d'exister, on a tous besoin d'être vus, et on a cette capacité-là à pouvoir donner ce sentiment aux autres d'exister. Simplement les regarder, je reviens vraiment sur la dimension d'authenticité, les regarder vraiment, leur donner de l'attention, même si c'est juste quelques secondes. Et puis on a tous des gens auxquels on pense parfois et dont on n'a pas de nouvelles et dont on sait qu'ils sont peut-être, qu'ils vont peut-être pas bien, que c'est peut-être un peu compliqué. Moi, je donne des petits exercices aussi. C'est pas compliqué d'envoyer un petit SMS, un petit mot gentil, etc. Parfois, vous allez vraiment ensoleiller la vie de quelqu'un. Si vous envoyez un petit SMS à Ali en lui disant « on adore ton émission », vous allez lui faire plaisir.
Et vous résumez les choses de la façon suivante, je vous cite « on se fait plus d'amis en 2 mois en s'intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans à essayer de susciter leur intérêt pour nous ». Axel Davezac, au terme de cette émission, un dernier conseil justement pour lutter contre le sentiment de solitude ou l'isolement ?
C'est tout ce qui vient d'être évoqué par David, c'est exactement le travail qui est fait par les associations, c'est-à-dire ouvrir les portes, aller à la rencontre des personnes isolées, les accueillir et non pas les mettre comme dans une approche plus de prise en charge médicale en leur disant changer, leur suggérer, leur proposer, les mettre en mouvement en fait pour qu'ils aillent vers l'autre, pour qu'ils s'occupent des autres, pour qu'ils retrouvent cette dignité, cette estime de soi. Et quand même saluer le travail de toutes les associations de notre pays de proximité. Les auditrices en ont été des brillants exemples et je voudrais quand même aussi qu'on les remercie beaucoup parce que c'est elles aujourd'hui qui sont les premiers acteurs de lutte contre cette solitude et cet isolement.
Et nous consacrerons une émission à la solitude choisie qui permet de prendre soin de son arrière-boutique, pour parler comme Montaigne, son arrière-boutique intérieure. Juste un dernier témoignage très intéressant et rapide, Michel des Côtes d'Armor, témoignage très intéressant, enfin en tout cas question très intéressante. Bonjour Michel.
Bonjour.
On termine avec vous, Michel.
Bien d'accord, mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup.
Ah, on ne vous entend plus. Je reprends dans ma voix votre question. Michel s'inquiétait de l'intelligence artificielle qui pourrait renforcer l'isolement des jeunes, notamment David Gourion. Attention à ces outils qui deviennent des nouveaux amis ou des nouveaux thérapeutes ou des nouveaux confidents.
Oui, absolument. Alors ça, c'est une remarque passionnante aussi. Il faudrait consacrer une émission qui donne l'illusion de l'empathie, alors qu'en fait, il y a juste un algorithme. Donc non, il n'y a pas d'empathie.
Merci beaucoup, Axel Davezac. Vous êtes directrice générale de la Fondation de France. Et on peut retrouver votre étude de Solitude 2025, les liens de proximité, pivot de la sociabilité, sur votre site.
Oui, absolument.
Fondation de France.org.
Merci beaucoup.
Merci David de Gourion. Je recommande chaudement Remède à la solitude, 10 séances pour apprendre, réapprendre à tisser des liens. C'est chez Marabout. Demain, comment aider son enfant à lutter contre sa timidité ? Toutes vos questions et vos témoignages. Demain, dès 10h.